pleuviotes. Les jeunes gens, eux aussi, s'ennuient le dimanche. Ils pleuviotent sur leur chambre de bonne. Et si on se faisait une toile, on pourrait aller au Christine. Ou pourquoi pas à l'Épée de Bois. Ou alors à l'Arlequin, si t'es partante. Et il y a quoi au Champon? Et au Danton, il y a quoi? Les petites queues sous la flotte, et puis bien l'eau chaude, et puis après Malassis, et puis... Et tiens, si on allait mater Diamant sur canapé, ou alors Chantons sous la pluie, comme ça, si les flaques sont encore là quand on sort, ben on ira sauter dedans, ça fera la jointure, un fondu au gris. Le cinéma, ça apprend à vivre, ça apprend à faire son lit. Puis après, on ira manger une glace chez Bertillon, puis on se roulera des pelles sur un pont. Toi, si tu veux, tu choisiras le pont. Voilà.
Les périphériques sont bouchés, le ciel aussi. Pour l'après-midi, comptez sur quelques éclaircies. Mais un conseil, n'oubliez pas vos affaires. À demain.
Merci, Charlotte, pour ces pronostics peu réjouissants. Il est 7h30 à ma montre et une information sur mon bureau, un événement pittoresque. La société Sopida fête aujourd'hui sa 1000e boîte de cassoulet. Vous connaissez bien cette maison fondée en 1888 qui a pour la première fois utilisé la saucisse de Pelfort dans la fameuse recette traditionnelle de Castelnaudary. Sopida donc offre à son 1000e acheteur un week-end de rêve au Sénégal. En direct du magasin où se trouve cette fameuse boîte, nos reporters guettent l'heureux acheteur.
Ce soir, belle audience, des bons clients. Notamment, je vais renverser les bonnes manières. Je vais d'abord présenter Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir Romain.
Simon qui nous fait sa visite annuelle. Il sera bien sûr question de cinéma et aussi de son projet Interview Project NZ. Katie est là, Katie est de la partie qui nous parlera de la thérapie par le gel, la gélothérapie, dont je garde personnellement d'excellents souvenirs. Et Else, toujours dans le cinéma, parlera de Claude Rich.
Bonsoir.
Bonsoir Else. Et pour commencer, on écoute. Allez, Malavida, Mano Negra, ça remonte 90.
Me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja mi respirar.
Simon, merci d'avoir bravé ce crash intiède et cet ennui dominical pour venir nous rejoindre et parler d'un projet associé à ton nom, qui est celui de Interview Project NZ.
.com.
De quoi s'agit-il ?
Ah ben, je suis très heureux d'être ici, Romain. Merci. D'ailleurs, vous m'avez épargné d'assister de nouveau à une défaite d'une équipe sportive néo-zélandaise, les Warriors, qui peut-être jouent encore, mais ils sont probablement en train de perdre de nouveau. Donc je suis ravi d'être ici pour parler de interviewprojectnewzealand.com. C'est un projet qui date depuis 3 ans maintenant. C'est un projet d'été, en fait. Pendant l'été, pendant les vacances, je pars avec ma famille. On va faire du camping, on va faire des randonnées de plusieurs jours. Et j'emmène avec moi mon matériel de tournage, de production. Et pendant 2-3 heures chaque jour de nos vacances, on passème l'endroit où on est basé, parce qu'on fait du camping quelque part. Et on part à la recherche des gens qu'on rencontre au hasard, comme ça. On se présente, on se dit, nous sommes en train de cueillir les histoires des individus. Est-ce que vous voulez bien nous donner 45 minutes de votre temps? On va monter, ce sont des histoires audiovisuelles, parce que je pars avec des caméras vidéo, des micros, etc., etc., donc tout ce qu'il faut. Comme je dis, c'est un beau projet d'été où on rencontre, où l'on rencontre les gens qui ont des histoires, des gens ordinaires, mais j'aime pas tellement le mot ordinaire, ce sont des gens comme toi et moi, et si on est ordinaire, bon, je rencontre des gens. Et chacun a une histoire, le tout c'est de savoir établir un rapport de proximité, de confiance, de sorte que quelqu'un que tu viens de rencontrer veuille bien te faire confiance, que tu ne vas pas exploiter son histoire, que tu ne vas pas abuser de son histoire, que tu ne vas pas... Parce que les gens, lorsqu'ils te racontent une histoire, ils n'ont pas vraiment d'idée, s'ils n'ont pas été à la télé ou s'ils n'ont pas été filmés avant, comment ils paraissent à l'écran. Ils ne savent pas comment les gens pourraient interpréter ce qu'ils sont en train de te dire. Et donc, tu as, en tant que producteur de ce genre d'histoire, une responsabilité à leur égard, qui est de ne pas les tourner en ridicule, mais tu as aussi une responsabilité à l'égard de ton public, ceux qui vont regarder ces histoires, ceux qui vont écouter ces histoires, de les présenter de manière aussi candide que possible. Et c'est étonnant ce que les gens peuvent te dire. S'ils pensent que tu es en train de vraiment les écouter, le tout est de vraiment donner l'impression que tu les écoutes, car il n'y a rien de plus important qui se passe pendant ces 45-60 minutes. Et c'est vraiment dynamique comme rencontre, parce qu'au début, les gens peuvent se croiser les bras, peuvent se sentir un peu mal à l'aise, et au fur et à mesure que l'entretien a lieu, tu peux sentir une sorte de détente et à ce moment-là, tu commences à avoir des histoires parfois tragiques, parfois drôles. Ça dépend des âges et des expériences des uns et des autres. Et pour l'instant, j'ai 13 histoires sur le site web interviewprojectnz.com et des gens jeunes, des gens qui ont une quarantaine, cinquantaine, trentaine, des hommes, des femmes. Ce sont largement des Néerlandais, mais j'ai une histoire d'une Danoise. J'ai aussi une histoire d'un Japonais, un jeune Japonais, qui faisait un truc un peu curieux. Il n'avait jamais fait du vélo, vraiment, de son vivant. Il s'est acheté un vélo au warehouse et il lui est venu l'idée saugrenue de faire tout le long de la Nouvelle-Zélande, de Cape Reinga à Invercargill, en vélo. On l'a rencontré dans un petit bled dans l'île du Sud, où il nous a accordé 45 minutes de son temps. Donc, je suis en train de monter son film. Et les vidéos peuvent durer 5 minutes. Le plus long, je crois que c'est un quart d'heure, parce que c'est une femme qui a eu un rapport très, très difficile avec sa maman lorsqu'elle était enfant. Sa maman était quelqu'un de... Elle paraissait sobre, elle paraissait respectable. Elle était principale d'une école, ou directrice d'une école, j'imagine qu'on dit ça en français. Donc elle avait l'air respectable, mais elle picolait comme c'est pas possible le week-end. Elle buvait une sorte de mousseux qui s'appelait Esti Spumante. Et donc elle s'occupait pas du tout de ses enfants. Donc la fille n'avait pas du tout de bon rapport avec elle. De surcroît, elle s'est séparée de son premier mari. Et le deuxième a eu un drôle de rapport avec la fille de la femme que j'ai interviewée. Donc, cette femme a dû se décider de raconter cette histoire, pensant que ça allait faire du bien aux autres, qu'il fallait avoir du courage pour venir peut-être dénoncer quelque chose de tragique qui était arrivé dans son passé, de ne pas avoir peur. Il y a des femmes à qui il arrive des horreurs, des viols, et elles ont peur, elles ont honte, elles ne viennent pas dénoncer le mec ou la personne responsable de leur... de cet abus, de cet crime. Et donc, cette femme, elle raconte ça, et c'était bouleversant d'avoir cette histoire-là. Un exemple. Un autre exemple, c'est un vieux monsieur, pas vieux, il avait une cinquantaine, mais il avait une crise cardiaque. Il avait, je ne sais pas comment dire ça en français, il avait une crise cardiaque. Et donc, il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait par-dessus tout, qui était de conduire les camions. Il était un routier. Et il pouvait plus faire ça. Et donc, il avait des cinquantaines, il avait des battements de cœur, il fallait qu'il prenne énormément de médicaments. Et on le rencontrait assis sur un banc à Kaikohe, qui est dans le nord. Et on s'est présenté à lui, on s'est dit, tiens, on fait ceci. Le truc avec le projet entretien, c'est, il faut que tu abordes les gens qui ont l'air d'avoir du temps. Il faut des trucs, il y a des astuces. Tu peux pas aborder n'importe qui. Donc, il faut, donc on a vu cet homme tard dans l'après-midi, assis sur un banc, on s'est dit, tiens. Il dit oui, donc on l'a suivi quelque part. Et au début, je pensais que l'entretien n'allait nulle part, parce qu'il commençait à se sentir gêné. Et on sentait que ça n'allait nulle part, cet entretien. Il n'y avait rien de très personnel, il n'y avait rien de bien intéressant. Et donc, vers la fin, j'ai dit, est-ce que vous avez autre chose que vous voulez partager avec nous? Et comme ça, à propos de rien, il nous raconte une histoire où... il était en train de coucher, dormir avec sa maman, il avait 8 ans, et son papa est venu à la maison et a tué sa mère avec un couteau devant lui. Alors, j'imagine que cet homme, Thomas, il s'appelle, a dû porter cette histoire comme un fardeau pendant des années, des années, des années, des années. Et il pouvait pas le raconter à beaucoup de gens. Donc j'imagine que nous rencontrer, c'était l'occasion pour lui de se sentir un peu plus léger, de se décharger. Je sais pas si on l'a dit. Se sentir un peu mieux en racontant à quelqu'un. C'est un peu... On était des espèces de ersatz psychothérapeutes.
Non, c'est ça,
ouais. Oui. Et ça me rappelle des moments lorsque j'étais chauffeur de taxi à Auckland la nuit. Tu vois, je conduisais la nuit 3 fois quand j'étais un étudiant. Et dans la nuit, vers minuit, ils avaient peut-être 1 ou 2 verres dans le nez. Et ils t'ont raconté des choses. Et moi, qui avais 21 ans, 22 ans, c'était... Wow. T'étais dans une sorte de confessionnel. Ce qui m'a donné une sorte d'aperçu de ce que c'est d'être catholique, bien que je ne le suis pas. Je suis High Church Anglican, ou comment on dit ça, épiscopalien, peut-être en français. En tout cas, ça voisine le catholicisme, mais il n'y a pas de confession. Voilà, donc Interview Project New Zealand part à la rencontre des gens qui ont des histoires, pas toujours tragiques comme ça, mais des histoires, et... Cathy, tu voulais...
Oui, moi j'aimerais bien te demander, j'arrive pas à situer le déroulement de l'interview, parce que tu dis souvent « nous, on ». Donc est-ce que ça veut dire que ta famille et toi, chaque personne intervient pendant l'interview? Comment ça se déroule? Parce que tu parlais d'un projet familial.
Ok, c'est un projet que je fais avec mes filles pour le moment. Mais bon, ça va être modifié parce qu'il y a l'une d'elles qui est partie à Paris pour terminer ses études. Elle est partie il y a 15 jours, donc je vais pas pouvoir le faire avec elle. Donc je le fais avec Solène, mais pas ma femme pour l'instant. Mais Solène et moi, on peut le faire à deux, c'est une équipe très réduite. Une fois je leur ai chargé de poser des questions, c'était pour une jeune fille, Waihara Keke, que l'on a rencontré, où est-ce qu'on l'a rencontré d' ailleurs, Whakatane, parce qu'on était en train de faire du camping autour de Whakatane. Et on est allé à Whakatane, on a rencontré cette jeune fille qui avait plein de santé, plein de pêche, on était séduits par elle, et elle a dû demander ses parents parce qu'elle avait 17 ans. Donc on est revenu 3 jours après, et puis j'ai demandé à mes enfants de lui poser des questions, plutôt que d'avoir un vieux schnook comme moi, lui poser des questions. Donc, et comme Solène a assisté depuis 3 ans maintenant à produire ces histoires, elle commence à se sentir un peu plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'est une formidable assistante technique. Si je ne l'avais pas, je serais bien peiné pour bien tourner ces trucs, parce qu'on utilise 2 caméras. On utilise du matériel professionnel, parce que je veux que ces histoires aient l'air d'être professionnellement produit. Il faut que je respecte ces histoires. Et je veux aussi que ceux et celles qui les voient, qui les écoutent à travers le site web, y trouvent une expérience, une sensation esthétique agréable aussi, parce que ce n'est pas simplement des têtes parlantes. Hein. Il y a un effet de post-production importante. Une histoire de 5 minutes peut prendre 8 jours de travail solide. Et moi, je suis quelqu'un d'expérimenté maintenant, donc je sais comment aller un peu vite. Et, yeah. Mais ce qui est intéressant, c'est que New Zealand On Air, qui est une agence publique qui débourse de l'argent public pour produire la télé, les films, la radio, vient de changer son mode de financement, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui accèdent aux histoires locales à travers l'Internet, à travers des plateformes variées. Donc ils sont devenus plateformes neutres en ce qui concerne la manière de distribuer ces histoires. Donc des personnes comme moi qui payent de leur poche ces histoires, parce que pour moi c'est une source de créativité, et c'est aussi important pour mes étudiants qui me voient en train de faire des trucs, hein, parce que j'enseigne la production numérique, raconter les histoires, construire des histoires, donc c'est important que je fasse des histoires. Et donc ils sont en train, New Zealand On Air, de considérer les gens comme moi pour des sommes assez modiques, à condition que les histoires... Il faut que tu coches plusieurs cases, hein, afin d'avoir cet argent. Mais je crois que je pourrais prétendre avoir, je ne sais pas moi, 50 000 $, 80 000 $. Et ça serait formidable. Je pourrais payer Solène, ma fille. Hein.
J'aimerais poser une question qui, en fait, s'ajoute à celle de Katie, ton approche, tes efforts pour gagner la confiance de ces gens rencontrés à hasard me fait penser à un cinéma documentaire que j'aime beaucoup, qui est celui de Raymond Depardon. Mais lui s'y prenait très 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 loin, très très longtemps en amont. Je pense que la Nouvelle-Zélande est un des rares pays où on peut obtenir ça, la confiance des gens, que c'est pas n'importe quelle nation qui a cette générosité, cette curiosité, cette ouverture spontanée à l'autre. Mais enfin, ça me semble tout de même assez difficile de gagner la confiance de quelqu'un en quelques minutes. Quels sont les trucs pour y accéder?
Et écoute, peut-être ça se passerait plus difficilement en France, effectivement, je ne sais pas. C'est quelque chose que je vais tenter, un de ces quatre.
Je pense que le facteur temps, oui, est primordial, parce que si on a le temps, effectivement, on a le temps de discuter. Et
voilà.
C'est vraiment, c'est un élément. Donc je pense que dans la campagne, il y aura peut-être plus de chances que dans les villes.
Voilà, par exemple.
Oui, en France.
Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment écouter. Il faut vraiment que les gens à qui tu parles sachent que tu les écoutes. Et je crois qu'on a une capacité très développée de cerner si quelqu'un, oui ou non, est en train de nous rouler dans de la farine, ne pas nous respecter, nous vendre des salades, un bullshit detector, je dirais ça, un détecteur de merde, on capte ça très très vite. Donc le tout dans l'échange, c'est que la personne à qui je me présente, j'établis un rapport, et ce rapport est dynamique, parce qu'au fur et à mesure que le rapport dure, la personne se détend, ou pas, selon mon interaction. Si je dis un mot qui pourrait paraître critique, peut-être ils vont se retirer un petit peu. Donc, ça c'est un peu les trucs de l'entretien. Mais ceci est aussi quelque chose tu as parlé de Raymond Depardon, que j'aime beaucoup, mais il y a une femme qui est morte l'année dernière, hélas, dont le nom m'échappe, mais qui s'est fait connaître par une série de documentaires et des films de fiction. Elle était belge, elle faisait des films expérimentaux. Elle était surtout connue pour Jeanne Dielman, 54, Quai de Bruxelles. Ça vous dit, en tout cas. Elle a fait une série de documentaires où elle parlait aux gens marginaux qui étaient sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, parce qu'elle était basée aux États-Unis, où elle enseignait et elle travaillait. Et donc, elle aussi a eu cette capacité d'entrer en communication avec les gens qu'elle venait de rencontrer. Et elle disait quelque chose comme, ces gens-là savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Et donc, c'est un truc qu'elle avait. Et je ne prétends pas du tout avoir les compétences de cette femme dont le nom m'échappe toujours. Et c'est tragique parce qu'elle est une grande cinéaste.
Oh, ça reviendra pendant la pause.
Mais moi, tu sais, ça me fait penser plutôt au documentaire de ce Français dont le nom m'échappe, qui est intitulé « J'irai dormir chez vous ». Et c'est un type qui se balade. Vous avez pas vu ça?
Oui,
vous
connaissez pas? Tout à fait. Ouais,
c'est un type qui se balade en sac à dos avec juste une toute petite caméra système D, et il débarque dans des pays et il demande aux gens qu'il ne connaît pas, qu'il rencontre pour la première fois, il arrive à les convaincre ou non de les accepter, de lui offrir un toit. Et donc t'as toute une série, j'irai dormir chez toi à travers le monde. Donc c'est très très instructif. Parce que tu le vois entrer en action, tu connais pas du tout ce dont je parle. Tu devrais regarder. C'est, ouais, et ça existe.
Mais je pense que son dispositif, il est là, seul, petite caméra.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça rassure, ça n'intimide pas.
Tout à fait. Et on ne sait pas comment il se présente, mais j'imagine que comme il a déjà un pédigré, il a déjà plein de films, j'irai dormir chez vous à travers le monde. Peut-être qu'il leur montre sur une vidéo cam ce qu'il a fait précédemment pour les mettre en confiance en leur disant voilà, cette émission existe depuis longtemps, voilà ce que j'ai fait. J'en sais rien. On ne voit pas le processus.
On s'interrompt avec de la musique. Yvan, qu'est-ce que tu as choisi pour nous?
Magie de Cherfi, si ça marche. Hein.
Si ça marche, qu'est-ce que tu veux dire, écoute, si ça marche?
Tu vois, je vais essayer de le lancer, mais je crois que la protection de mon téléphone, ça ne fait pas l'affaire.
Ah, oh, ces téléphones surprotégés, mais libérez les téléphones.
Ouais, tu vois, libérez le téléphone. Ouais. On va voir si ça marche.
Bah, ça marche pas. Ça marche mal.
Ça marche pas. Non, on va monter le son.
Ah voilà!
Venu là pour te tutoyer. Jamais à aucun de tes rendez-vous, jamais droit à un vous. Oh, qu'est-ce qu'ils en disent les cieux? Jamais t'as eu droit à un monsieur, pas une seule fois, et je parie que tout est peut-être d'Henri. Qui sont ces hommes qui t'ont dit toi? Jamais vous-même sous ton toit. Le petit veut qu'on dise. Le petit veut qu'on dise. Le petit veut qu'on dise vous. Le petit veut qu'on dise vous. Un jour on a dit à mon père tu. On lui a dit tu et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous. Et j'avoue que que cet étranger? Qu'as dit-tu à mon père? Est-ce qu'au moins c'était son frère? Est-ce qu'au moins c'était son ami? Pour qu'il se le soit permis. Est-ce qu'ils ont fait les 400 coups pour que ce tu vaille le coup? Ce fut mon premier tu et je suis tombé pour deux lettres de l'alphabet. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous. Sur le chemin de retour à ce rendez-vous, je me suis dit, à quoi ça sert un vous? Est-ce qu'il existe que pour vous? Est-ce qu'il faut de tu pour faire un vous? Les ricains qu'on a dit voyous, eux n'utilisent que le you. Pour une fois chez les Gaulois, est-ce la faute qui fait la loi? Ce tu fais la peau, mais je jure, sur ce pronom pas singulier, qu'à la prochaine familiarité, la brute sera abattue. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise.
Majid Cherfi, c'est chanteur de Zebda.
C'est un bon choix.
Ouais.
C'est bien. Autre bon choix, celui de parler de ce tout petit, de ce représentant de ce toute petite confrérie des éternels jeunes hommes, Claude Rich. Claude Rich qui est mort la semaine dernière. Et
oui, il est,
tu vas nous parler.
Ouais, donc un très bel acteur qui est décédé donc le 20 juillet dernier. Et qui a une carrière très très riche. Et avant d'en dire plus, je voudrais passer quelques répliques cultes.
Si ça ne vous fait rien, monsieur Delafoy, j'aimerais bien avoir une petite explication. Mais remettez d'abord vos chaussures, vous êtes ridicule.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique, cher monsieur?
Tout ça. Lumière tamisée, musique douce, et vos godasses sur les fauteuils, Louis XVI en plus.
La confusion peut encore s'expliquer, mais les termes sont inadéquats.
Parce que c'est peut-être pas du Louis XVI.
Non, c'est du Louis XV. Remarquez, vous n'êtes pas tombé loin. Mais surtout, les sonates de Corelli ne sont pas de la musique douce.
Oui, bah pour moi, c'en est. Et je suis chez moi.
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser.
Si j'avais été mariée,
c'est parce que j'aurais fait n'importe quoi, sans doute.
J'aurais jamais dû te rencontrer.
Ça n'aurait rien changé. Un peu plus tôt, un peu plus tard, tu aurais rencontré une de mes sœurs.
Je me demande si je devrais pas la quitter. Je peux rien pour elle, mais personne ne pourra jamais rien pour elle.
Elle tient à toi pourtant.
Oh, ça n'arrange rien non plus.
Ils ont vécu 7 ans ensemble. Leur amour, c'est leur mémoire. Mais pour Claude Rieder seul, le passé redevient le présent. Au gré des minutes et des secondes qu'il a réellement vécues, il va tomber en chute libre d'un moment à un autre, d'un visage à un autre. Ce film est moins la biographie d'un homme que sa vérité secrète, ses hantises, sa passion pour une femme.
Foie gras truffé.
Du Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre.
Une habitude, monsieur Fouché. Le savoir vivre et le savoir mourir. Cela chez nous se sait à la naissance. votre avis, combien de temps avons-nous pour souper dans le calme?
Dansons la carmagnole, vive le son.
Alors, Fouché, combien de temps?
Très peu de temps.
Pas plus?
Guère plus.
Noël. On avait quitté Paris à l'aube, on est arrivé au village vers minuit. Je me souviens des cloches dans la nuit. C'était la sortie de la messe. Puis des années, puis la Russie, j'avais pas vu autant de neige. Je portais un manteau de fourrure. Une lubie de ma mère qui avait pas encore compris qu'en France, les enfants mettaient pas ce genre de choses. À l'école, des gens qui se foutaient tous de moi à cause de mon accent. Mais avec ce manteau, qu'est-ce que je me suis fait casser la gueule. Enfin, cette nuit-là, j'étais bien content de l'avoir.
Panoramix, excuse-moi de te déranger en plein travail. Il y a quelqu'un qui veut te voir.
Monsieur?
C'est moi.
Donc là, manifestement, il ne vous connaît pas. Hein.
Si. Non, si, non, je suis numéro bis. Le fils de votre vieil ami, Touméris.
Numéro bis? Mais quelle bonne surprise! Oh. Oh. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie.
Je suis mon cher ami. Très heureux de te voir.
C'est un Alexandre.
C'est de la potion magique?
Non, c'est de la soupe de vin.
Donc voilà, voilà quelques extraits pour vous montrer un peu le registre varié de Claude Rich. Je crois que vous avez dû reconnaître donc les Tontons Flingueurs.
Ah ouais, les Tontons Flingueurs, j'adore cette réplique-là.
Et après, donc Je t'aime, qui a été aussi un film important. Le souper. Ouais. Et pour le souper, il a reçu le César du meilleur acteur en 93. Et La bûche, où il joue le rôle d'un violoniste tzigane. Et enfin, Mission Cléopâtre pour Astérix et Obélix. Donc, Claude Rich a passé ses premières années à Strasbourg. Il est né là-bas. Et en 1935, ils ont quitté Strasbourg pour Paris. Il a perdu son papa très jeune. Son père avait juste 40 ans, donc il devait avoir à peu près 5 ans à l'époque. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué également. Et... sa mère, qui est alsacienne, très croyante, espère qu'il deviendra prêtre, mais il choisit une autre voie et sa mère ne l'en veut pas parce qu'elle-même voulait être sculptrice. Ça se dit, ça? Oui, sculptrice. Et elle l'aidera beaucoup dans son désir d'être acteur. Donc, il a eu cette aide-là. Mais néanmoins, toute sa vie, il restera très, très chrétien, entre guillemets, enfin catholique. Il ira à la messe tous les dimanches et il ne s'en cachera pas. C'est quelque chose qu'il aura avec lui. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il vit en pension. Donc là, c'est encore, il a une dizaine d'années, donc il vit la guerre. C'est quelque chose qu'il a bien vécu. Et son grand frère, quant à lui, est engagé dans la première armée de Lattre. Et Claude Rich, de son côté, participe, comme beaucoup de jeunes parisiens, à la libération de Paris. Comme Gavroche, en fait, pour transmettre des courriers, et puis directement lors de l'insurrection. Un peu plus tard, il commence à travailler comme employé de banque et en parallèle, donc, il va suivre les cours d'Ulin, donc le centre d'art dramatique de la rue Blanche, et intègre plus tard le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, donc la promotion de 1953. Il en sortira avec le deuxième prix. Ce que j'ai pas bien compris, c'est que dans une note, il est marqué qu'il n'y avait pas de premier prix, donc finalement, il n'y avait pas de premier prix décerné. Donc bon. Il en sort le meilleur, mais c'est là qu'il c'est important, parce qu'il se lie d'amitié avec plusieurs élèves qui deviendront tous des très grands acteurs, entre autres Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Bruno Kremer, et ensemble ils forment ce que fut appelé la bande du conservatoire. Et donc sa carrière, eh bien, il fait ses débuts au théâtre, c'est un homme de théâtre, et participe donc également à des films, notamment Les Grandes Manœuvres de René Clair, qui lance sa carrière cinématographique en 1955. Donc fréquemment, il va interpréter des rôles de secondaire de jeunes premiers dans les années 60. Donc notamment, comme on l'a entendu, il donne la réplique à Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. Et là, j'ai une autre petite...
Un petit extrait
à passer qui est très joli.
Oh, nom de Dieu, le nom de Dieu, mais où faut-il s'expatrier, mon Dieu, pour avoir la paix? Au Groenland, à la terre de feu? Je vais toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez? Absolu! La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe?
Et également, dans la réplique à Louis de Funès dans Oscar, je crois que j'ai un extrait aussi.
Elle vous aime?
Je le crois, monsieur. Je peux même dire que j'en suis sûr. Elle m'a donné des preuves.
Quelles preuves?
Mais qu'est-ce que vous faites encore avec cette clochette?
Vous me demandez quelle preuve votre fille m'a donnée, je fais venir l'aspirine.
Enfin, c'est une manie de vouloir me faire prendre de l'aspirine.
Monsieur Barnier, j'ai horreur des cachotteries.
Oui, ça, vous l'avez prouvé.
Alors voilà, c'est une chose dont nous pouvons parler entre hommes.
Oui.
Je suis l'amant de votre fille.
Quoi?
Monsieur m'a appelé.
Sortez d'ici, vous.
Ah bien, monsieur.
Non, pas vous, lui.
Moi.
Ou plutôt non. Vous restez, vous sortez.
Je vous demande pardon, monsieur, mais j'ai pas très bien compris. Lequel de nous deux doit sortir et lequel doit rester?
Allez réfléchir à ça dans la cuisine, vous.
Bien, monsieur.
Alors?
Alors voilà.
Ma fille a un amant. Alors ça?
Et depuis combien de temps? Depuis bientôt un an et demi.
Vous n'avez pas perdu de temps, hein?
Ah, pourquoi me dites-vous ça?
Eh ben, vous me dites que vous connaissez ma fille depuis un an et demi. Maintenant, vous m'annoncez que vous êtes son amant depuis un an et demi. Alors, je vous réponds, vous n'avez pas perdu de temps.
Non, en réalité, nous nous connaissons depuis un an, 6 mois et 4 jours. Mais je suis son amant depuis 1 an, 5 mois et 22 jours. C'était un dimanche, il pleuvait.
Ça explique tout. Mais enfin, je persiste à dire que vous n'avez pas perdu de temps.
Il continue sa carrière cinématographique et en 1968, Alain Honneth lui propose l'un des plus grands rôles de sa carrière dans le film de science-fiction Je t'aime, je t'aime. Et on a entendu tout à l'heure un petit extrait. En fait, il y interprète un homme voyageant dans son passé après un suicide raté. Et le réalisateur l'a choisi pour son timbre de voix qui est quand même très particulier. Et il continue sa carrière dans les années 60-70, c'est le théâtre qui prend le relais, et notamment dans Adrien 7, et pour lequel il est récompensé pour le prix du syndicat de la critique, et également un passage très remarqué à la Comédie française dans le rôle-titre de Lorenzaccio d'Alfred Musset. Bon, également, donc ça l'empêche pas d'apparaître plusieurs fois au cinéma. Et donc je vous cite des films, mais ma liste n'est pas exhaustive parce qu'il en a fait tellement. Mais entre autres, en 1974, La femme de Jean, et également dans Adieu poulet en 75, Le crabe tambour en 77, également un film important, et La guerre des polices en 79. En 1989, donc il joue Talleyrand dans la pièce, donc le rôle de Talleyrand dans la pièce du souper de Jean-Claude Briseville, aux côtés de Claude Brasseur. Une adaptation cinématographique lui permet donc d'obtenir le César du meilleur acteur en 93. C'était un pari parce que il était dans un des interviews, il expliquait clairement que ils n'étaient pas sûrs que le public serait au rendez-vous parce qu'il s'agit quand même d'un dialogue entre deux hommes et c'était pas gagné d'avance, mais en fait ça a eu une très belle un très bon retour. Là également, j'ai un petit extrait.
De quel film?
Du souper. Dans...
On y va.
Ouais.
Buvons. Allons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac. Regardez, s'il vous plaît.
en prend son verre dans le creux de sa main. On le réchauffe. On lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum. Puis, on le porte à ses narines. On le respire.
Puis ?
Et puis, on le repose et on en parle.
Voilà. En ce qui concerne la télévision, donc, on trouve quand même Claude Rich dans certains films, sous le faux air d'un diplomate américain, marié à Claude Jade, mais secrètement un agent secret dans le feuilleton Le Grand Secret en 1989. En 93, La Vérité en Face, et là il incarne aux côtés de Daniel Darieux, un ancien membre de la Résistance soupçonné d'avoir parlé sous la torture. Également son rôle de Léon Blum dans Thérèse et Léon de Claude Coretta avec Dominique Labourier. Et sans oublier donc son portrait d'un psychiatre célèbre, le professeur Silberstein, aux côtés de Marouchka Detmers dans Clarissa de Jacques Deray. Il collabore également à de nombreux films historiques, dont Le Colonel Chabert en 94, La fille de D'Artagnan, également dans la même année, qui lui vaut à nouveau d'être nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, Le Bel été 1914, ou encore Capitaine Conan en 96. Il ne dédaigne pas les grandes productions, notamment dans les comédies comme La Bûche en 99, qui lui vaut à nouveau d'être nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, ou encore donc Astérix ou Obélix dans La Mission Cléopâtre, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, où il interprète le druide Panoramix. C'est un acteur. Tous les gens qui le décrivent parlent toujours de son sourire malicieux, quelqu'un qui est très souriant et donc une voix reconnaissable.
C'est quelqu'un qui ricanait avec les yeux.
Ouais. Il y avait de la malice dans ses yeux, ça pétillait, effectivement. Et donc, il multiplie les apparitions au cinéma dans les années 2000, donc dans Le Coup de la vie, en 2003. Je vous en cite quelques-uns. Hein. Là-haut, un roi au-dessus des nuages, en 2004. Le mystère de la chambre jaune, Le Coup de la girafe, Président, ou Le crime et notre affaire. En 2002, il reçoit donc un César d'honneur pour toute sa carrière d'acteur. Et durant donc les années 2000, en fait, il se fait pas mal remarquer sur le petit écran pour des grandes interprétations de personnages historiques tels que Galilée dans Galilée ou l'amour de Dieu, aux côtés de Jean-Pierre Marielle, ou Voltaire dans Voltaire et l'affaire Callas. À voir, en fait. Et en 2009, il est à nouveau nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation dans le film de François Duperron, Aide-toi, le ciel t'aidera. En 2012, donc il a toujours travaillé, il incarne le père de Jean-Pierre Bacri, président du section du Conseil d'État, un homme précieux et autant concentré dans la comédie de mœurs, Chercher Hortense. Donc... En 2015, on le voit donc pour la dernière fois au cinéma dans le film d'Alain Chocard, Lady Grey. Il est marié à une actrice également qui a eu de nombreuses récompenses, Catherine, qui à l'époque s'appelait Catherine Renaudin, mais donc Catherine Rich. Et le couple aura donc deux filles et un fils adoptif. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que avec un homme de cette envergure, on n'est pas beaucoup parlé lors de son décès le mois dernier. Parce que j'étais en France et j'étais un peu surprise qu'on n'en parle pas plus. Parce qu'autant Jeanne Moreau était très... Et on a eu beaucoup de choses, mais ouais, j'étais étonnée.
Moi, quand tu disais tu allais parler de la mort de Claude Rich, j'ai dû me gratter un peu la tête pour me dire... Et pourtant, Dieu sait que j'ai consommé beaucoup de films quand j'habitais en France, et j'ai même dû utiliser le smartphone de Romain pour voir sa tête, parce que sa tronche ne me revenait absolument pas. Et les prix qu'il a eus, c'est surtout qu'il était connu comme un deuxième couteau et ce n'était pas le vedette. Il a eu des prix pour.
Oui, oui, il effectivement, était dans le second rôle.
Second rôle, oui.
Mais effectivement, dans le soupe.
Jeanne Moreau est une grande, voilà. Grande
oui.
Vedette.
Voilà, oui, mais il était aussi au théâtre, il était aussi très, très connu. C'était, oui. Il était sur les deux facettes. Mais c'est vrai que. Moi, j'en garde le souvenir donc, du souper, effectivement, ça m'a marqué. Et là, il avait un rôle à sa mesure. Mais c'est vrai que dans les Tontons Flingueurs, on s'en souvient aussi. Mais il a eu une longue carrière.
Oui, ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Il travaillait jusqu'à 2015, deux ans avant sa mort.
Oui, c'est...
On le souhaite à tout le monde.
On le souhaite à tout le monde. Mais c'est vrai que ses copains de promo sont tous ces grands acteurs également. Mais
Mais je pense que c'était quelqu'un de très effacé, de très discret.
Je pense aussi.
Le grand public le connaît très peu parce que justement, il n'est pas tout le temps dans les magazines People. Il ne l'a jamais été. Quand tu vois tous les gens de sa promotion.
Oui, quand tu penses à Jean-Paul Belmondo ou à.
Ouais. Même Bruno Kremer, qui n'est pas une très 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 grande vedette, il avait quand même une présence publique, j'ai l'impression.
Bah dans son rôle dans Le Commissaire Maigret, effectivement, l'a peut-être fait connaître aussi durablement dans le grand public.
Je crois qu'à son détriment, il n'a pas été choisi, pas été élu par un grand réalisateur. C'est peut-être le problème aussi. Il était dans des bons films, notamment des bons films populaires. Mais il n'y a pas un chef-d'œuvre qui soit associé à son nom.
Il a tourné quand même avec quelques grands noms, mais peut-être pas dans des premiers rôles.
Oui,
Sans doute pas dans des premiers rôles. Il était apparemment dans Le marié était en noir de Truffaut, mais je ne sais pas quel rôle il a interprété.
Parce que là je retiens en fait deux rôles importants pour lui. Donc Je t'aime, et donc au début de sa carrière.
J'ai jamais entendu parler.
Et puis donc Le souper. Mais ça, c'était plutôt vers la fin de... Enfin, quand il était vraiment un acteur déjà établi.
Mais une pièce de théâtre à l'origine de Briseville.
Oui, c'est vrai que ça se veut un peu comme un huis clos, parce que bon, pendant la majorité de la pièce, ça se passe dans la salle à manger.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'était un pari assez risqué. Il a également joué dans Le Diable Rouge. Il faut vraiment. Moi, j'ai découvert aussi d'autres films que je ne connaissais pas, et effectivement, ce sont des beaux films. Ils sont à voir, et j'encourage vraiment tout le monde à se pencher sur sa carrière.
Alors, ils sont à voir. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent en Nouvelle-Zélande, comment on fait pour les voir, Simon?
Toi, tu vas nous. Tuyauté, j'imagine, sur la manière quelque peu détournée d'accéder.
Non, pas du tout. Je le trouvais sur YouTube,
avec
tout BitTorrent. Mais je pense qu'on trouve très facilement.
On trouve beaucoup de choses sur YouTube. Et à quand une plateforme de type Netflix qui permet de voir des classiques français ou hollywoodiens?
Ah bon?
Ça manque. Non, je l'attends.
Moi, personnellement, j'habite à Dominion Road et je trouve qu'il y a un très bon vidéoshop.
Vidéon?
Ouais, c'est pas mal.
Il est encore là.
C'est le dernier.
Il y a pas mal
de films français.
Ça fait un long moment que j'ai pas mis les pieds dedans, mais ça m'étonne même qu'ils existent toujours, vu la concurrence maintenant.
Quand on voit tout ce qui a été fermé, tous les vidéoshops qui ont
été
fermés.
Le streaming. Nous sommes étranglés par le temps, on est comme dans un jean serré, là, donc, alors c'est sans musique et sans transition. Merci beaucoup, Else, pour ce beau papier.
Je t'en prie.
Que nous passerons. Alors, je voulais le garder pour la fin de l'émission pour cause de Dimat, parce que il y a des gens qui sont là, qui regardent leur monde. Quand est-ce qu'on va parler de gélothérapie? Alors, de quoi s'agit-il? J'en peux plus.
Alors, selon vous, gélothérapie, quand je dis gélothérapie...
C'est le soulagement avec un peu de gel.
Par le foie.
Par le foie, tu dis quoi, toi?
Gélothérapie. Moi, je pensais à quelque chose de légèrement plus érotique.
Ouais, la table de nuit, la bouteille de gel et...
Ah, d'accord.
Et la thérapie, quoi.
Sensuelle.
Bon, en fait, gélo, c'est un mot grec qui veut dire le rire.
Et donc la gélothérapie, c'est la thérapie. Oui, ben oui, moins sexy. C'est la thérapie par le rire. Et donc, depuis quelque temps, on en parle beaucoup. D'abord, on a fait cette constatation que les Français rient de moins en moins. J'ai cherché un petit peu sur Internet et en 1939, les Français riaient à peu près 19 minutes par jour. En 1983, ils ne rient plus que 6 minutes par jour.
Mais qui fait ces sondages?
Et maintenant, nous sommes en 2017, on ne rit plus qu'une minute par jour.
Donc il y a vraiment quelque tristesse. Chose.
Non. Donc il faut prendre le taureau par les cornes et rigoler beaucoup plus. Ouais. Rire qui est devenu une façon aussi très sérieuse de soigner les gens en hôpital. On remarque que dans les services d'oncologie, on introduit le rire à juste titre que les autres thérapies. Et donc il y a aussi à travers le monde des clubs de yoga par le rire. Il y en a entre autres un à Ponsonby.
Mais alors, quand on entend ça de la rue, on a vraiment l'impression d'être dans un asile de fous, quoi.
Mais tu veux dire que quand on entend les gens qui rigolent
c'est vraiment exagéré. Et puis,
si tu veux, le yoga du rire, t'es censé aussi faire des exercices respiratoires qui s'allient aussi au rire. Donc tu respires, tu fais tout ça. Eh bien, effectivement, si tu passes et que tu vois les gens des clubs de yoga du rire sans raison.
Forcé.
Donc effectivement, ça fait un peu fou.
Je suis un peu avec Yvon là. Si maintenant on est pris dans une sorte de toile d'injonction permanente, tu dois être heureux, tu dois jouir trois fois par semaine et tu dois rire 19 minutes par jour. Non mais ça me prend à la gorge.
Non mais t'es pas obligé. Sauf que bon, si tu veux, il y a quand même différentes façons de combattre l'amorosité. Tu peux décider de partir marcher en forêt, de partir camper. Il y a aucune injonction, absolument pas. Ce que je veux dire, c'est
un
que
peu une injonction. Ça me rappelle le père d'un de mes potes, un enfant battu. J'avais 9 ans, c'était un voisin. Et quand ils étaient partis en vacances avec nous, j'ai ce souvenir marquant de ce type qui envoie une mandale à son môme. Donc mon pote qui s'envole au milieu de la piscine, qui en ressort la tête, les larmes aux yeux. Et son père qui dit, tu vas t'amuser maintenant, tu vas t'amuser, dis-moi que tu t'amuses, regarde-moi, dis-moi que tu t'amuses. Ça fait un peu penser à ça. Moi aussi j'ai mon histoire.
Mais c'est vrai que j'ai vu un documentaire où je les voyais effectivement en train de rire, donc c'était donc là, j'ai vu la gélothérapie sans savoir que c'était de la gélothérapie. Et apparemment, ça fait développer des hormones,
enfin, tout à fait,
des trucs de bien-être,
tout
c'est
à
ça
fait, des endorphines.
Comme le sport, ouais.
Tout à fait, des endorphines qui font du bien. Ma sœur, qui a malheureusement eu un cancer, a eu une naturopathe qui lui a conseillé de faire de la gélothérapie. Et j'avoue que j'étais à ses côtés pendant une partie de son traitement et que j'ai allègrement rigolé avec elle assez longtemps.
Alors,
donc
que
on regardait bien sûr des films, on allait écouter des émissions, des comédies, on s'est fait pas mal de comédies et je cherchais aussi avec elle des sites sur internet, des sites pour nous faire rire.
Alors moi j'ai une question, c'est comment ça se fait qu'on rit de moins en moins?
Je pense tout simplement parce qu'on est dans le type de vie que nous avons, c'est une vie où on passe beaucoup plus de temps à travailler, dans les transports, et à prendre moins le temps moins le temps de se retrouver et de rigoler. Et il y a aussi c'est pas une injonction, mais on a envie aussi peut-être de paraître plus intelligent.
Est-ce que ça correspond pas à l'apparition des téléphones, justement?
Sans doute.
Alors, au point de vue pratique, donc tu nous dis qu'il y a des sessions de gélothérapie à Ponsonby. Alors, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est remboursé par Wins? Est-ce que...
J'en sais trop rien. Remboursé, j'y crois pas, parce que de toute façon, c'est gratuit. Ça marche sur des donations si tu le souhaites. Ils louent une salle à un centre. faudrait regarder.
Ça me paraît beaucoup plus sérieux que la psychiatrie, par exemple. Tu vois.
Je suis déjà allé, donc il faut que tu amènes ta bouteille de gel.
Ah bon, vous avez quoi?
Et après, tu as des séances de chatouille.
Ça ne peut être que plus sérieux que la psychiatrie, je dirais.
Et que tu t'en enduis. Bon, alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de sites.
Mais est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est
la gélothérapie?
Bah oui, je sais pas.
Du tout.
Pas
de prix. C'est gratuit. Pas du tout, c'est gratuit. C'est ce que je te disais. Le club de Pont-de-Sombie, tu ne payes rien. Tu y vas, tu fais une donation si tu le souhaites, tout simplement parce que on leur cède une salle et donc ils la louent pour une somme dérisoire, j'imagine. Mais il y a aucune obligation, c'est gratuit.
D'accord.
Mais le rire a moins de valeur, non, si tu payes pas, c'est pas ça?
Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi ces trucs de psychanalyse où il faut payer?
Et on risque pas de se retrouver dans un asile psychiatrique, ouais, après, quoi.
Ben, moi, jusqu'à maintenant, je me suis pas...
T'es sûr que c'est pas une secte?
Non. Non, moi jusqu'à maintenant je ne me retrouve pas dans...
Allez-y et puis allez-y à Pont-de-Sombie, c'est où à Pont-de-Sombie?
Vous n'êtes pas obligé d'aller à Pont-de-Sombie, je veux dire que votre vous n'êtes absolument pas obligé d'aller à Pont-de-Sombie. Votre gélothérapie, vous pouvez la faire à domicile, vous pouvez la faire entre potes, vous pouvez la faire tout seul.
On peut écouter des discours politiques ou des trucs comme ça.
Tout ce qu'on veut, qui nous fait rigoler.
Il n'y a pas de sacrifice humain, des gens qui sont morts de rire.
Il n'y a pas ça. Moi j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit faible pour Gaspard Proust. C'est mon humoriste préféré et je l'écoute régulièrement. Bah,
je vote pour lui aussi. Beaucoup.
Donc, bon.
Tu écoutes Rire et Chanson, c'est ça? Tu écoutes Rire et Chanson?
Oui, j'écoute tout ce qui traîne sur lui. Il est fin, il est drôle, il est intelligent et j'aime bien ça.
Il y a plein d'autres.
On peut trouver des petites blagues. Je suis tombée par hasard sur un site canadien qu'ils appellent les Joe Capapa et je me suis permis, voilà, pour vous. Je vais vous raconter. Donc, elles sont pas toutes très fines, hein. La finesse n'est pas spécialement toujours au rendez-vous. J'en ai une pour toi, Simon, toi qui es prof. Ce que les profs et les hémorroïdes ont en commun.
Des douleurs rectales.
Eh ben, tous les deux sortent du corps enseignant.
Donc,
elle sait, j'en ai une pour toi parce que tu m'as raconté il n'y a pas si longtemps quelque chose. Que dit un chat qui rentre dans une pharmacie? Parce que elle sait, vient d'acquérir un petit chaton chez elle.
Petit chat.
Alors, que dit un chat qui rentre dans une pharmacie?
Chat va bien.
Ça va bien. Est-ce que vous avez du sirop pour ma toux?
Ah, c'est excellent.
Je sais aussi, je connais quelques petites habitudes culinaires de Romain. Savez-vous pourquoi Romain aime manger aux toilettes?
Je sais pas.
Parce qu'il aime manger épicé.
Ça marche.
Et toi?
Alors vas-y, balance.
Toi qui crois aux extraterrestres?
Bah, depuis quand?
Est-ce
je sais
que
pas.
Tu sais qu'il y a deux sortes d'OVNI? Il y a l'OVNI Tender et l'OVNI Trop.
Bon bah c'est bon, je crois que tu peux être prof de gélothérapie là.
Ça devrait être une sorte de séance hebdomadaire sur Amuse-Gueule.
Sinon,
ça sera un service
sérieux.
Public.
Pour ceux qui veulent apprendre le français, il y a quand même dans la langue française une série d'expressions avec le mot rire. Alors, qui c'est qui commence? Moi, je commence. Être pince sans rire, avec le mot rire, qu'est-ce que tu connais?
Sourire.
Rire aux éclats.
Rire aux éclats.
Rire jaune.
Rire jaune, tout à fait.
Ah, je suis coincé, non?
Mourir de rire.
Ah, mourir de rire, oui. Pleurer de rire.
Rire à se rouler par terre.
Oui.
Rire à se faire péter les côtes.
Oui.
Rire comme une baleine. Rire à gorge déployée. Rire à se décrocher la mâchoire. Rire comme un bossu. Être tordu de rire.
Oui.
Être écroulé de rire. Rire sous cape. rire dans sa barbe, rire de bon cœur et ne pas avoir le cœur à rire.
Effectivement. Voilà.
Mais alors Simon, puisqu'on parle de rire là, puisqu'il y a une campagne politique qui est lancée en Nouvelle-Zélande, est-ce que toi ça te fait bien rire
Ça m'a fait beaucoup moins rire que ce qui se passe aux États-Unis. En fait, non, je devrais dire le contraire. Ça me fait davantage rire que ce qui se passe aux États-Unis, qui est une histoire tragique presque chaque jour avec le grand blanc à la Maison Blanche là. Mais ici, oui, ce qui vient de se passer avec Matilda Touray, sa manière de démissionner s'apprête au rire. Je crois qu'elle a très mal géré cette affaire, même partager son histoire perso et chercher à en profiter pour que les Verts prennent plus de votes au Parti travailliste, ça s'est retourné contre elle. Et donc, elle a mal. Même sa manière de démissionner, elle a eu une idée dans un taxi. Elle allait. Je sais pas moi. Tout ça est très, très curieux et c'est lamentable. C'est très triste pour les Verts.
Très triste pour les Verts. Hein.
C'est très triste pour les Verts, mais c'est mieux pour le Parti travailliste qui reçoit mon soutien. Habituellement.
Et donc, on va certainement avoir une femme Premier ministre.
Ah, j'aimerais bien.
Hein?
J'aimerais bien. Ça serait temps de nouveau. Est-ce que vous avez le droit de voter ici?
Non, mais on n'a pas le droit. Si, mais on n'a pas le droit de parler de politique à la radio.
Ah, ok.
Donc les gens ne doivent pas savoir qu'il y a une élection qui se déroule en Nouvelle-Zélande.
Il serait bien que. J'aimerais bien voir une femme de nouveau à la tête du gouvernement en Nouvelle-Zélande.
Et puis en plus, elle a de grandes dents.
Ah, bah c'est marrant, c'est ce que mon mari me dit à chaque fois qu'il la voit.
Et c'est là.
Je vais vous fermer le clapet à tous pour le donner exclusivement à Simon. Simon, ça serait dommage de t'inviter ce soir sans parler de grand écran de cinéma. S'il nous reste 3 minutes, s'il y avait un film que tu voulais nous recommander, issu du festival du film d'Auckland ou d'ailleurs, quelque chose qui est surtout sur les écrans, sur les écrans ou qui va ou vient de sortir en DVD, quelle serait ta recommandation?
Alors, moi j'ai vu 11 films lors de ce festival récent, ce qui est pas mal. Pour moi, et ce qui le thème un peu inconscient qui parcourait mes choix était le cinéma d'auteur et le cinéma d'auteur européen cette fois-ci. J'ai pas choisi des films venant de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, des États-Unis. C'était films d'auteur et surtout européens. Et parmi les 11 films que j'ai vus, il y en avait un de Katel Kieveray. C'est un nom breton, je prononce mal. C'était son 3e long métrage, le premier dont elle n'a pas écrit le scénario, parce que ses 2 premiers longs métrages, Un poison violent en 2010, qui était sur l'adolescence, les émois amoureux et la religion catholique, ce qui est assez curieux en France, a reçu le prix Jean Vigo. Suzanne, que j'ai vue en 2013, film fantastique, surtout les ellipses, 25 ans dans la vie d'une femme qui mère enfant 17 ans et qui père routier, soeur fidèle.
Il est bien ce film.
Il est super ce film. Et le 3e long métrage d'elle, Réparer les vivants, c'est une adaptation du roman éponyme de Maïlis de Kerangal. Un grand drame humaniste qui décrit les étapes morales et chirurgicales d'une greffe de cœur en particulier. Et du don d'organes en général. Ça ouvre avec un grand plan sur un cœur qui bat. Et puis, on est en train de l'enlever. C'est dans ta gueule, mais c'est aussi très... comment dirais-je? C'est pas dans ta gueule. Ce qui est vraiment curieux et ce qui est fascinant avec Katel qu'il les verrait, c'est sa mise en scène intelligente, subtile, mystérieuse par certains égards. Il y a un jeune garçon de 17 ans qui part avec ses copains pour faire du surf. Il y a un accident de voyage de route et comme il n'est pas en train de porter sa ceinture de sécurité, il passe à travers le pare-brise. Donc, arrivé à l'hôpital, il est en état de mort cérébrale. S'ensuit ensuite, qu'est-ce que ses parents vont faire pour les organes de ce garçon. Donc, on pourrait croire qu'elle a fait un truc, elle aurait pu faire un mélodrame sirupeux. Pas du tout. Mais c'est l'ensemble des personnages qui est fascinant. Chacun est dépeint. Il y a 5-8 personnages et c'est on est avec chacun d'eux dans ce film d'un très grand cœur.
Merci, merci beaucoup Simon.
On se dit au revoir, Simon, il reste deux secondes.
Merci d'être venu, merci à elle.